Les samedis 17 et dimanche 18 février 2018 se déroulera la 4e édition de l'Atrobatia Escale Imaginaire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir
Romain.
Bonjour Romain et merci de prendre un petit peu de ton temps pour répondre à nos questions. Donc cette année, ça sera la 4e édition du festival. Déjà pour en revenir un petit peu, comment s'est créé ce festival, si on peut parler de festival?
Oui, effectivement, on peut parler de festival parce que c'est ce qui nous est apparu comme étant un festival au fur et à mesure du développement de l'événement. À la base, c'était pas forcément un festival, c'était plutôt un salon, un endroit où on pouvait venir rencontrer quelques auteurs, quelques illustrateurs, et ça s'arrêtait là. Sauf que, pour en revenir à ta question, Damien, sur l'origine un petit peu de toute cette aventure-là, cette dédicace à l'origine de quelques-uns en a tiré quelques autres. À attirer des groupes de musique, à attirer des conteurs, à attirer du public venant costumé. Et donc, en fait, par la force des choses, ça s'est effectivement transformé en festival au fur et à mesure. Et en fait, dès la première année, en 2015, dès la première édition, tout le monde nous a effectivement mis dans la case festival, entre guillemets. Et nous, ça nous allait bien, parce qu'en fait, ce qui a fait que l'association a lancé Atrebatia, c'est parce que nous étions nous-mêmes, avant d'organiser une date, un événement, visiteurs d'autres festivals un peu partout en France, et c'est vrai que encore maintenant, mais à l'époque plus encore, on faisait beaucoup de kilomètres pour aller sur d'autres événements comme ça, en Bretagne, en région parisienne, dans les Ardennes, en Belgique. Et à un moment donné, on s'est dit, bah mince, effectivement, on commence à avoir le réseau, on commence à connaître pas mal d'auteurs, illustrateurs, etc., dont certains avec un certain renom. On a une ville qui est accueillante, qui met le paquet sur la culture, on a quelques monuments qui sont franchement remarquables et qui pourraient faire un cadre assez extraordinaire pour monter un événement. Tentons le coup. On a tenté le coup, on y est allé, ça a donné Atrebatia.
On va parler un petit peu de l'univers. Déjà, Arras, c'est une cité médiévale, c'est une ville médiévale. Concernant votre univers, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Atrobatia Escale Imaginaire, c'est...
C'est plein de choses. C'est effectivement l'imaginaire médiéval, médiéval fantastique, les légendes arthuriennes, les fées, les sorcières, et tout ça, ben, ça résonne avec l'histoire locale, concrètement, parce que le beffroi date, même si c'est pas celui actuel, il a été détruit, mais daté, en tout cas, a été construit au Moyen-Âge, dans un style gothique, donc on est effectivement en plein dans cet univers-là. Et puis Atrebatia, ça s'appelle comme ça aussi, parce que le nom est une référence aux Atrébates, la tribu gauloise et celtique, qui vivait en fait dans l'équivalent de ce qu'est l'Artois aujourd'hui, et à qui on a aussi voulu rendre hommage, parce que c'est le fait de souligner qu'en fait l'imaginaire, c'est l'enfant de l'histoire, c'est l'enfant de la littérature, c'est l'enfant de l'histoire locale. Cette année, ça va particulièrement être vrai, on travaille autour du sujet des royaumes de l'ombre, par exemple, donc l'aspect plutôt dark de la fantasy, où forcément les vampires, les sorcières sont jamais loin, et ben ça aussi, ça résonne avec l'histoire locale, parce qu'à Arras, au 14e, on a un grand procès qui s'appelle les Vauderies d'Arras, et qui est ni plus ni moins qu'un procès en sorcellerie, pour des raisons politiques, etc., mais qu'un procès en sorcellerie, où des jugements pour sorcellerie, avec des sabbats, etc., décrits dans des procès, dont d'ailleurs certains sont exposés en ce moment même à la médiathèque Saint-Va dans le cadre de l'exposition du festival, les vrais documents historiques, bah font qu'on met en résonance Atrebatia, l'imaginaire et l'histoire locale. Donc oui, effectivement, on est nourri de ça, et ce qui fait aujourd'hui que le festival est si inclus localement, d'une certaine manière. C'est vraiment un événement du cru, c'est vraiment un événement arageois qui rend hommage à son histoire et qui, d'une certaine manière, bah, permet de chausser des lunettes un petit peu différentes pour, allez, est-ce que je vais aller dire jusqu'à penser l'avenir, j'en sais rien, mais en tout cas pour regarder les choses avec un œil acéré.
Cette année et l'année dernière, le festival se déroulait sur 2 jours, ça a toujours été le cas?
Oui, effectivement, on est parti sur l'idée de 2 jours immédiatement, mais avec une ampleur qui était un peu différente et qui a grandi, raisonnablement grandi au fur et à mesure. En 2015, on avait 26 exposants, 2000 visiteurs. À la deuxième édition en 2016, quand on a vu effectivement que le monde plaisait, que l'imaginaire plaisait et que le public était au rendez-vous, on s'est proposé d'être sur les 2 étages du beffroi avec à peu près 80 exposants. Ça a été le même cas en 2017, mais avec l'hôtel de Guine en plus. Et en 2018, là pour le coup, nous serons au beffroi sur l'ensemble des étages, et y compris au second. qui sera pas publiquement accessible, mais sur lequel on aura un accueil qui permettra d'accéder à tout l'espace jeu, en fait, du festival, et ça c'est une nouveauté de cette année. Nous aurons aussi le jardin du Beffroi, donc le joli jardinet à l'arrière qui accueillera lui aussi des exposants et des animations, et l'hôtel de Guigne comme pôle jeunesse du festival avec une programmation à part entière. Et a priori, là on va essayer de trouver tout doucement notre vitesse de croisière, parce qu'on se dit que c'est quand même déjà une très jolie ampleur, et on va vraiment proposer maintenant des thématiques, des univers au fur et à mesure des éditions qui viendront, et c'est un peu ce qu'on commence avec celui autour des Royaumes de l'Ombre.
Tu l'as évoqué, donc l'hôtel de Guigne est utilisé depuis l'année dernière, depuis l'année 2017. Est-ce que ça a été compliqué d'avoir l'hôtel de Guigne en plus comme lieu d'exposition ?
On va pas se mentir, c'est une organisation. Voilà, concrètement, ce sont des responsabilités, c'est du sérieux. On met plusieurs milliers de personnes dans un Beffroi qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, dans un hôtel de Guigne qui est à l'inventaire des monuments historiques. C'est une responsabilité. C'est pas tant la paperasse qui nous inquiète, elle est nécessaire pour des questions d'assurance et compagnie. C'était plutôt d'être à la hauteur de la proposition qu'on fait au public et à nos partenaires, la ville d'Arras en premier lieu, mais l'office du tourisme, l'office culturel aussi. D'être à la hauteur de la sécurité, de l'animation et du respect des lieux. Tout ça demande énormément de travail. C'est l'occasion pour moi, en tant que président de l'asso, pour le coup, de remercier mes bénévoles, qui sont nombreux, plusieurs dizaines, et qui, pour certains d'entre eux, bossent tout au long de l'année. Parce qu'il faut savoir que quand on ferme la lumière du festival d'une année, on laisse passer à peu près 3 semaines, 1 mois, et on rallume la lumière du suivant. Donc c'est-à-dire que sur Atre Bacha 2018, on y est depuis à peu près début avril 2017. Donc ça demande effectivement énormément de travail, beaucoup de responsabilités, mais ce qui compte, c'est que c'est une formidable aventure humaine, et que le public est au rendez-vous. Et ça, c'est l'important, et le public a des étoiles plein les yeux. Et c'est ça, en fait, qui nous guide. Sinon, on le ferait pas, c'est clair, c'est un travail de fou.
Cette année, donc, la thématique du festival, c'est Âge sombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide de la thématique de l'année ? Est-ce que c'est une décision collective ? Est-ce que ce sont les exposants qui évoquent la thématique ?
Ça se passe possiblement de toutes les manières que tu viens de citer, en fait. Pour le coup, on est vraiment une association qui fait vivre le principe associatif dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que on n'a pas un chef et des exécutants, on a vraiment et un conseil d'administration où tout le monde décide au même niveau. On est très ouvert aussi sur ce que nous disent le public, les exposants, et donc le choix des thématiques, ça se fait soit par affinité personnelle d'un des membres. Voilà, on a quelques personnes dans l'équipe qui sont très très portées dark fantasy, plutôt univers sombre. Et ben on s'est dit, et ben voilà, cette année on tente le pari de faire sur cette thématique là. On a des personnes qui sont intéressées par d'autres pans des cultures de l'imaginaire. Le seul point, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà, à partir du moment où tout le monde est d'accord, à partir du moment où on sent, on teste un petit peu, on envoie des signaux, à partir du moment où on sent que ça répond et que on sent un intérêt pour le sujet, on y va, on développe, on trouve les parrains marraines qui viennent et qui collent bien au thème. On essaye d'agencer le programme autour de cette thématique-là. Et puis avant tout, on se fait plaisir. C'est ça qui est génial dans l'imaginaire, en fait. Il n'y a pas un sujet, il y a des sujets. Et un sujet, on ouvre un autre. Et en fait, d'une certaine manière, je pense qu'on n'aura jamais vraiment fait le tour. C'est le propre de l'imaginaire, pour le coup.
Tu parlais de parrains et marraines. Est-ce que tu peux nous citer des noms pour cette année et ceux des années précédentes également ?
En fait, le fait de thématiser le festival, c'est nouveau depuis 2017. On a travaillé sur la question du féminin. Tu me posais la question tout à l'heure. Voilà, dans l'équipe, on est un certain nombre à penser que le combat féministe passe aussi par la culture, passe aussi par un certain nombre de sujets. Donc on s'est dit, mettons en avant les créatrices, parce qu'on s'est rendu compte, mauvais élève entre guillemets, que sur les deux éditions précédentes, deux hommes étaient parrains. Et donc on s'est dit, allez, on met en avant la création qui est aussi par des femmes. Et donc on a trouvé 4 marraines qui chacune témoignaient d'un savoir-faire dans les cultures de l'imaginaire. On avait une auteure, on avait une créatrice de costumes, donc quelqu'un qui travaille plutôt la matière, une illustratrice, et puis une dame, une bonne fée entre guillemets qui entourait tout le monde et qui est vraiment quelqu'un de très important dans le milieu, c'est Claudine Glow, c'est une des personnes grâce à qui l'imaginaire est considéré de manière un petit peu plus sérieuse et a vraiment pris ses lettres de noblesse en France avec Pierre Dubois notamment. Et donc on a mis en avant ces créatrices-là et donc on a fait le programme autour de ce sujet-là.
Du coup, par rapport à la thématique de cette année, est-ce que vous avez dû, entre guillemets, fermer des portes à des exposants, à des artistes, parce qu'ils n'étaient pas dans le thème que vous proposez cette année ? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes exposants que l'année dernière et les années d'avant ?
C'est une question sur laquelle on réfléchit constamment, en fait, dans l'équipe. Très concrètement, on a fait un choix difficile. Cette année, 80% du festival est renouvelé par rapport à l'année dernière. Parce qu'on souhaite vraiment, avant tout, proposer toujours de la nouveauté, renouveler la proposition. On cherche, surtout dans l'état actuel des choses, à trouver des possibilités de sélection. Concrètement, aujourd'hui, à Trebaccia, c'est 100 stands et pas plus. Pour plein de raisons différentes. Parce qu'il n'y a pas forcément la place, mais aussi et surtout parce qu'on veut garder un festival convivial, familial, où on s'occupe de nos exposants, où on met nos exposants dans de bonnes conditions pour qu'ils soient eux-mêmes en bonnes conditions face au public. C'est l'idée. Et donc, ben forcément, on doit à un moment donné faire ce qu'on appelle des commissions de sélection. Et donc, avec l'équipe, au mois de novembre, souvent, on s'enferme un week-end à partir du vendredi soir. Et on bosse, et je vous assure que c'est vrai, on bosse pratiquement non-stop jusqu'au dimanche soir pour réussir à dresser la liste des exposants du festival.
Et comment se passe la prise de contact avec les exposants ?
En fait, on fonctionne par candidature, on en est là, et donc on a à peu près 160-170 candidatures pour une centaine de places.
C'est bien.
Donc oui, c'est plutôt bien sur l'image du festival. C'est difficile quand il s'agit de faire les choix. On a deux manières, entre guillemets, de rentrer en contact avec ceux qui sont exposants sur le festival. Le premier, c'est bien évidemment le fait de les rencontrer, le fait de les connaître, de connaître leur travail. Et puis on a aussi des candidatures au sens propre du terme, des sortes de candidatures spontanées, donc des personnes qui ont entendu parler du festival, qui ont entendu parler d'Atrebatia, et qui viennent vers nous pour proposer. Et donc on met tout ce petit monde dans une base de données qu'on décortique pendant un bon moment, et au fur et à mesure, et ben on a notre programmation, on a notre liste d'artisans, d'exposants, d'auteurs, illustrateurs, sachant que, a priori, personne ne sera empêché de venir à Arras. Si on n'est pas pris une fois, ça ne veut pas dire que l'on ne sera pas pris la prochaine fois. Ça peut être considéré de différentes manières. On a cette année des exposants qui, au bout de la quatrième candidature, seront là parce que ça colle, parce que c'est le moment, parce qu'il y a de la place. On a d'autres personnes qui, effectivement, étaient déjà là en 2017, à peu près 20% du festival. Mais comme ils ont une actualité, comme ils ont sorti beaucoup de choses, qu'ils ont beaucoup bossé dans l'année, ben, ils ont une place. Et donc voilà, on essaye toujours de trouver cet équilibre pour, toujours au final, pour que le public en prenne plein les yeux et soit confronté à de la qualité. Ça, c'est surtout important.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras niveau 2 ?
Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, il y a des gobelins à saigner.
Question un petit peu personnelle cette fois. En tant que fan, est-ce qu'un jour nous aurions l'occasion de voir la Neol Band à l'Atrebatia ?
Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous, ce qu'on souhaite à Trebaccia, c'est proposer du nouveau, c'est proposer, entre guillemets, de l'original. Au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les festivals d'ampleur ont accueilli la Neol Band. On a eu l'occasion de les voir plein de fois en concert, on est fans. Ça nous fait dire que c'est peut-être pas le moment de les accueillir. Parce qu'en fait, on a déjà peut-être eu l'opportunité de les voir beaucoup. Il y a plein d'autres groupes qui font un boulot excellent. Par contre, non seulement on est fan, et puis bien évidemment nous sommes en contact. Et bien évidemment, on a déjà eu l'occasion de bosser avec John Lang, notamment le chanteur et auteur du Neol Band, sur d'autres dates. Et donc on est en contact avec lui, avec son éditeur, avec pas mal de membres du groupe qui ont aussi un autre groupe, Magoyond, qui tourne bien et avec qui on est en lien. Allez, je vais pas faire de promesses, mais ce serait bête de pas les faire venir un jour.
Ça, la vie d'aventurier, et on y va, y a des trolls à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de en charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier.
Toujours dans le domaine un petit peu personnel, est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser les Bauves en tant que lieu d'exposition, jeu de piste, ou même lieu de déambulation?
Dans le milieu, on appelle ça se faire spoiler. Sois patient.
D'accord. Une dernière question personnelle. L'année dernière, je me rappelle très bien d'un monsieur qui était présent et qui vendait de l'hypocras et de l'hydromel. Ce monsieur sera-t-il présent encore cette année?
Allez, tu vas pouvoir refaire tes réserves, il sera encore là.
Super. L'année dernière, il y avait entre guillemets quelques plaintes, comme quoi il n'y avait pas forcément de lecteurs de cartes bleues. Cette année, est-ce que vous avez des changements à proposer, des modifications à proposer ?
Alors ça, effectivement, c'est plutôt du domaine des exposants, qui sont ceux qui, pour le coup, organisent ces transactions-là. Moi, ce que je peux effectivement dire, c'est que cette année, j'ai vu beaucoup de terminaux de cartes bleues arriver sur les stands, et que du fait, forcément, ce sera le cas aussi à Arras. Je rappelle aussi que le bon côté du festival à Trébatia, c'est que ça se passe au Beffroi et à l'hôtel de Guine, et qu'a priori, on a dans les 150 mètres aux alentours des distributeurs de toutes les banques que vous pouvez imaginer, et que c'est aussi l'occasion de prendre l'air et... petite pirouette que tu me permettras, d'assister aussi aux animations qui se passeront devant le parvis de l'hôtel de ville, parce que pour le coup on a un joli programme, mais on a aussi mis le paquet en déambulation et en animation sur le parvis de l'hôtel de ville, donc en sortant chercher ses sous, ça va être aussi l'occasion de voir des spectacles, entendre des contes et des groupes de musique jouer.
Cette année, il y a un mot qui m'a fait gentiment sourire à côté d'un nom, c'est le mot vampirologue. Est-ce que tu peux nous parler de ce monsieur et de la signification de ce mot ?
Ouais, avec plaisir. Alors malheureusement, je commence par une mauvaise nouvelle, ce monsieur Jacques ne pourra pas être des nôtres. Voilà, il est empêché sur ce week-end. On en est désolé, mais on aura d'autres opportunités. Et c'est lui-même en fait qui se définit comme vampirologue. C'est un des rares, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pris le vampire comme sujet d'étude pour essayer de comprendre des choses, pour essayer de comprendre des mécanismes. En fait, il fait un travail qui est un peu l'ordre de la sociologie et de la psychanalyse autour de l'image et du symbole du vampire, auquel il le dit sans souci, il ne croit pas une seconde. Hein.
Pour terminer cet entretien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des partenaires qui seront présents, hein ? Tu as évoqué tout à l'heure à l'hôtel de Guine un espace dédié à la jeunesse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que le festival... peut compter sur beaucoup de soutiens qui permettent son développement. Alors, deux choses dans ta question, les partenaires et l'hôtel de Guine. L'hôtel de Guine, effectivement, sera le pôle jeunesse du festival, parce qu'en fait, on a bien conscience, mais ça perdurera sur l'avenir, on a bien conscience que le sujet des royaumes de l'ombre peut, pour un public familial, pour les enfants, etc., être un petit peu inquiétant. Alors là, je rassure tout de suite, il n'y aura pas de zombies qui font peur et des choses qui feront faire des cauchemars aux enfants. On reste dans l'imaginaire et dans le fait. Eric, mais pour autant on a voulu quand même faire une vraie proposition familiale et une programmation jeunesse qui est d'une immense qualité, spécifiquement sur l'hôtel de Guine, pour justement pas perdre ce public familial et pour continuer de faire rêver les grands et les petits. Donc à l'hôtel de Guine, effectivement, des animations, le top du top en termes de compteurs, de lecteurs publics pour enfants en ce moment, dans le milieu de la fantaisie à l'échelle nationale, hein, notamment à l'échelle de la France. Donc vraiment une belle programmation, une belle animation, des jeux, des activités, des coloriages, de la création manuelle, etc. pour les gosses, donc ça va vraiment être très 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 sympa, et on vous encourage à y venir. On précise aussi que des lutins-bus vont être faits entre l'hôtel de Guine et le Beffroi notamment, donc on va avoir des bénévoles et des artistes qui feront des liens très réguliers, en toute sécurité, sur les trottoirs, avec un encadrement de sécurité, etc. Je disais tout à l'heure qu'il fallait être sérieux, c'en est un exemple, pour faire les jonctions entre le Beffroi et l'hôtel de Guine à travers ce lutin-bus. Tu me donnes aussi l'opportunité, pour le coup, de remercier les partenaires du festival, qui sont nombreux et qui, objectivement, permettent aussi au festival d'exister. La ville d'Arras, bien évidemment, l'office du tourisme, l'office culturel qui sont en soutien, en conseil sur l'organisation de ce festival. Et puis on a aussi des partenaires importants, la SNCF, si vous souhaitez avoir une petite amuse-bouche du festival, allez à la gare d'Arras en ce moment même, il y a une exposition. Sur les vitres de la gare, et ça c'est dans le cadre d'un partenariat avec la SNCF. On bosse énormément aussi avec des partenaires du centre-ville, le bureau hein, notamment, qui est un peu le mécène principal, je dirais, du festival, et qu'on remercie là, l'hôtel première classe de Saint-Laurent, pas mal de chambres d'hôtes aussi sur le centre-ville. Un certain nombre de petites entreprises locales aussi qui participent, Cité Nature également, qui est partenaire du festival et qui nous permet aussi d'accueillir l'ensemble des exposants pour un moment un peu plus professionnel, j'irai un peu plus de rencontres professionnelles. Et puis le réseau M, la médiathèque d'Arras également, où vous pouvez retrouver jusqu'au 24 février l'exposition du festival, donc des œuvres inédites d'Adeline Martin, de magnifiques costumes d'Esther Elia, et comme je le disais tout à l'heure, des pièces d'archives des procès de Vaudry d'Arras datant du Moyen-Âge.
Merci beaucoup, Romain, d'avoir pris de ton temps pour la radio PFM, radio provisoire depuis 1981. Nous vous donnons donc rendez-vous les samedis et dimanches 17 et 18 février. À partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure, d'ailleurs ?
Merci pour la question, effectivement. Samedi, à partir de 10h et jusqu'à 18h. Rendez-vous à 18h devant le parvis du Beffroi pour le concert d'Acus Vacuum et le spectacle électrique de la compagnie Vaporium. Bienvenue, je n'en dis pas plus, mais ça vaut le détour. Et on se retrouve le dimanche, pareil, de 10h à 18h, non-stop.
Merci Romain.
Merci Damien.